tous, que Dieu vous bénisse. Juste un petit réglage à faire. Bonjour à Farley, notre ami Farley. Bonjour à Sœur Marie-André. Bonjour à Rachel, aux sœurs qui se connectent avec elle. Bonjour à mon père, à ma mère. Bonjour à Marie-Huguette. Bonjour à Jean-Gilbert et à Rosanie. Bonjour à Claude, à Déborah, à Marcus, à Léa et à Derna. Yaoi, Nihao, Yezu Aini. Est-ce que tu as vu, Yaoi, mon post d'hier soir? Bonjour à Julie, que Dieu vous bénisse, salutations à votre époux aussi. Alors, il fait soleil ce matin, puis ce soir, la pluie commence. Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis, bonjour à Natacha, à Indirène et à la petite famille, bonjour à Immaculate. Alors oui, je suis à la maison, mais l'angle de caméra est différent parce que je viens à peine d'arriver. J'ai failli ne pas être en onde aujourd'hui. Donc j'ai pas eu le temps de positionner la caméra comme d'habitude. Il aurait fallu que je ferme les rideaux, patati patata, donc voilà. C'est juste pour ça que je ne suis pas dans l'angle habituel, mais je suis à la maison effectivement pour la diffusion de ce matin. Bonjour à Pascal, bonjour à la sœur Rosie, bonjour à Janine, bonjour à Martha Lucia et à Lakis. Bonjour à Marie-Marthe. Bonjour à ma belle-mère. Bonjour à Denise et à Gérard. Alors Denise, tel que je l'écrivais dans le petit mot d'introduction, on vous souhaite ou on vous présente nos plus sincères condoléances et on invite toutes les personnes qui se connectent ce matin à faire de même. Notre sœur Denise a appris le décès de son papa, je crois, dans les dernières heures. Donc, que le Seigneur vous comble de sa grâce, de sa consolation et puis qu'il vous entoure de sa douce présence et nos prières, bien entendu, vous accompagnent Denise et Gérard. Lucie, bonjour. Alors, j'espère que vous serez nombreux à vous joindre à moi pour présenter vos condoléances à notre sœur Denise. Je ne sais pas si toute la famille de notre sœur est chrétienne. Je crois qu'elle est parente avec quelqu'un qui faisait des émissions de télé, je crois, à l'époque. Fernand Saint-Louis, il me semble qu'on avait discuté sur ça il y a quelque temps. Mais bon, notre sœur est une enfant de Dieu. Elle connaît le Seigneur et aujourd'hui, elle a besoin d'une touche de la part du Seigneur pour ce moment un peu difficile qu'elle... ce moment difficile qu'elle traverse aujourd'hui. Donc, soutenons-la par nos prières et puis par nos voeux de consolation. Bonjour Guy. Pour ceux qui ne savent pas, la sœur Denise et son époux fréquentent l'église de Sainte-Adèle. reste encore 2-3 minutes avant qu'on ait le début de ce matin. Bonjour Nathalie. Bonjour France, bonjour Patrick. Effectivement, Rosie, il fait canicule dans votre coin. Chez nous, pas encore. En fait, on est quand même bien lorsqu'on se compare à d'autres. Dans l'ouest du Canada, il y a des pluies torrentielles qui sont attendues dans la région de Calgary. Et puis de l'autre côté, donc en France et puis en Europe, des périodes de canicule jamais vues jusqu'à présent. Donc ici à Montréal, il fait trop chaud pour moi, mais ça va. C'est tout à fait supportable, si on peut me permettre cette expression. Bon Dieu bénis-vous, Marie-Huguette. Bon Dieu bénis-vous, Ampélu. Au cap, bye, salutations au moins à Gaël et à Leïka. Merci, Ampélu. Et le son que vous entendez, bien sûr, derrière, c'est Néma qui est en train de s'abreuver. J'ai pas l'habitude d'être dans cet angle-là, donc quand je relève les yeux de l'écran, j'ai pas le réflexe d'aller sur la caméra. Je vais vers la rue, là, vers la fenêtre. Donc je m'en excuse. Demain, on reprendra fort probablement l'angle habituel dans lequel on diffuse. Bonjour Denise, cette fois-ci c'est Denise de Laval. Alors bonjour à Oriana Shema, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui veulent déjà ouvrir leur Bible, c'est bien entendu dans Ésaïe au chapitre 60 et le verset 1 que nous étudions ce matin, ou que nous continuons à étudier ce matin avec la thématique « Sois éclairé car ta lumière arrive ». Et c'est justement la phrase qu'on va décortiquer ensemble dans quelques instants. Elle a eu ses collations maintenant, elle est allée boire. Et puis là, elle est couchée sur le plancher. Et elle devrait ronfler dans quelques instants. Et je parle bien sûr de mon chien. D'accord, prions et après ça on va faire la lecture pour aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette occasion que nous avons encore de nous retrouver pour étudier ta parole, pour plonger nos regards dans tes saintes écritures. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir notre pensée, d'ouvrir notre compréhension à ta pensée, à ta volonté, à ce que tu désires pour nous, que nous puissions être des serviteurs et des servantes qui honorent ton nom dans nos paroles, dans nos actions, dans notre attitude, dans notre façon d'être, et dans l'orientation que nous donnons à notre vie. Nous prions, Seigneur, que tu prennes plaisir à cette vie qu'on mène devant toi, sous ton regard. Mais surtout, Seigneur, nous te demandons que ton esprit nous saisisse. De façon toute particulière, on s'unit ce matin pour prier pour notre sœur Denise Saint-Louis. Tu vois, Seigneur, la douleur qui peut l'affliger aujourd'hui avec l'annonce du décès de son papa. On te prie, Seigneur, que tu étends ta main, que tu la touches, elle, mais aussi l'ensemble de la famille qui est aujourd'hui dans le deuil. Que ta grâce les soutienne, que ta grâce les relève et que toi qui es le Dieu de toute consolation, tu puisses les entourer de tes bras et leur apporter effectivement ce réconfort dont ils ont besoin en ces heures difficiles. On prie, Seigneur, que pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ne t'ont pas encore rencontré dans la famille de notre sœur Denise, que ce soit l'occasion, Seigneur, de parler de toi et qu'ils soient aussi confrontés avec leur propre rencontre avec la mort, leur propre passage dans l'au-delà, afin, Seigneur, qu'ils puissent prendre les décisions qui s'imposent à ton égard. Alors nous prions que ce décès ne soit pas strictement une occasion de tristesse, d'abattement et de larmes, mais que ce soit aussi l'occasion pour d'utiliser tes enfants au sein de cette famille pour répandre ton message et pour apporter, Seigneur, l'assistance nécessaire à l'ensemble de la famille. Alors nous t'avons prié avec cette assurance que tu nous aimes, que tu prends soin de nous. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, je me rends compte qu'il y a quelques coupures, on s'en excuse, il y a des travaux, les camions ont commencé à passer devant la maison. Donc, si ça venait à interrompre, on s'en excuse sincèrement. Alors, je lis pour vous dans Ésaïe au chapitre 60, le verset 1. Ésaïe 60, le verset 1. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je répète, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et la partie qu'on étudie aujourd'hui, c'est la partie qui nous dit, sois éclairé, car ta lumière arrive. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Alors hier, on a débuté cette série d'enseignements qui fait suite à la prédication du pasteur Hannibal qui a été prodiguée pour nous dimanche matin lors de notre culte dominical. Et il avait plusieurs thématiques, mais le verset principal était donc effectivement dans Ésaïe 60, le verset 1. Hier, on a vu le verbe « se lever »,« koum » en hébreu, qui voulait dire « se tenir debout »,« s'afficher », qui voulait dire aussi « confirmer ». Prouver, attester, performer, accomplir, être en fait ce que nous devons être, et finalement qui veut dire aussi planter, être planté, persister ou demeurer. Dans le fin fond, c'était un appel pour vous et moi à nous tenir debout et à s'afficher pour Jésus, à s'afficher de manière à ce que notre comportement, notre attitude, nos paroles, nos actions cadrent aussi avec notre appellation enfant de Dieu, avec notre appellation de chrétien. Il est trop triste de voir des gens qui se targuent d'être des enfants de Dieu, se targuent de porter le nom de chrétien et ne pas vivre selon les normes de la parole de Dieu. Combien de fois on voit des artistes, particulièrement au sud de la frontière, qui font un peu du n'importe quoi de leur vie, qui font un peu du n'importe quoi sur scène et qui ne sont certes pas des exemples à suivre ou qui ne sont certes pas des modèles au niveau de la pureté, de la sanctification, dirons-nous, et qui, lorsqu'on leur remet un prix, vont malgré tout dire « Je veux dire merci à mon Seigneur Jésus-Christ ». Je pense que lorsqu'on appelle Jésus, notre Seigneur et notre Maître, il faut encore vivre selon les principes de ce Seigneur et de ce Maître, et non pas tout simplement en faire mention quand ça nous plaît et quand ça attire un peu d'audimat simplement. Alors, vivre une vie qui soit effectivement en accord avec la parole de Dieu et qui soit en accord avec le titre d'enfant de Dieu, le titre de croyant et de chrétien qui est le nôtre. Et aujourd'hui, donc, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je vous rappelle qu'on parle ici de l'Éternel, de Dieu, qui s'adresse à Israël, à la nation d'Israël, dans un moment tout particulier où il leur annonce la restauration du pays après avoir été emmenés en captivité, en servitude pendant plusieurs décennies. Voilà que le Seigneur leur annonce que la délivrance s'approche, que le temps de purge, le temps de sanctification par lesquels ils ont été forcés de passer suite à leurs iniquités, à leurs péchés, arrive à terme. Le temps de la reconstruction de Jérusalem, du temple, des murs de la ville s'approche et Dieu leur dit, voici, j'arrive, vous êtes mes enfants, alors levez-vous, vivez comme enfants de Dieu, vivez à la hauteur des standards de Dieu et de surcroît cela, soyez éclairés car votre lumière arrive. Alors ces deux termes en fait qu'on voit aujourd'hui, que ce soit le terme être éclairé ou le terme lumière, on le voit dans le texte ici, on dit sois éclairé car ta lumière arrive. Être éclairé et lumière, c'est le même terme en hébreu, le terme or, qui s'écrit en fait apostrophe O-R, un peu comme l'or, le bijou ou la pierre précieuse. Donc or, apostrophe O-R. Et on va voir trois déclinaisons ou trois, comment on va dire, trois lignes de pensée sur ce que représente le terme or. Le deuxième terme qu'on va avoir, c'est le terme bo, B-O, qui est l'hébreu pour arriver, pour le verbe arriver. Donc, or, soit éclairé, car or, la lumière, arrive bo. Or, bo. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Trois déclinaisons pour sois éclairé. C'est tout d'abord, effectivement, être éclairé, être illuminé ou être sous le faisceau d'une lumière. Et ici, ça a deux sens particuliers. Un, c'est le sens que, après avoir été oublié, après avoir été mis de côté pendant un certain temps, après avoir été dans l'oubli des nations, Dieu lui dit maintenant, je vais t'éclairer, je vais t'éclairer. C'est comme s'il dit maintenant, je vais allumer les spots sur toi. Je vais ramener l'attention sur toi, le peuple de Dieu. Être sous le faisceau de la lumière de Dieu, ça veut dire deux choses. Ça veut dire non seulement que cette lumière va nous éclairer, que cette lumière va guider nos pas. On se rappelle bien sûr ce passage dans les psaumes, le psaume 119, le verset 105, qui nous dit que la parole de Dieu, en fait, est une lumière à nos pieds et qu'elle éclaire notre sentier. Donc oui, il y a cette notion que, voilà, Dieu a décidé que dorénavant, on reprend cette période dans laquelle je serai votre lumière, je serai votre clarté et je vous guiderai pas à pas. Mais ça veut dire aussi être sous la lumière, ça veut dire amener à la lumière ce qui était autrefois caché. On a vu hier que lorsqu'on dit qu'on se lève, il y a un changement d'état. On était tout d'abord peut-être couché, étendu au sol, voire assis. Et il y a un changement radical qui fait que de la posture que j'avais précédemment, je me lève et je prends une nouvelle posture, une nouvelle position. Il en est de même lorsque quelque chose est éclairé. Avant d'être éclairé, on est donc dans les ténèbres ou dans la pénombre. Par contre, quand la lumière arrive, ben à ce moment-là, ce qu'on ne voyait pas vient à être dans la lumière. Et rappelons-nous que si le peuple s'est rendu à être dans la pénombre et dans les ténèbres, c'est parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. C'est parce qu'ils avaient péché. Et Dieu dit, voilà maintenant, ma lumière arrive. Ça veut dire que Dieu va amener sa lumière pour que notre état de cœur, notre état de pensée, nos actions, nos façons de faire, nos paroles soient assujetties à la lumière de Dieu. Dieu sonde ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu es. Tu restes sous le regard de Dieu. Il est toujours en train d'illuminer ta vie afin que les choses cachées de ton existence soient amenées à la lumière. Pourquoi le fait-il? Non, il ne le fait pas pour que tu aies honte. Dieu n'est pas dans ce ministère-là de faire honte aux gens et de faire honte à ses enfants. Il éclaire les sections peu glorieuses de ta vie pour que ces sections soient amenées à changer. Il éclaire les choses qui ne sont pas agréables à ses yeux pour que tu prennes conscience de la réalité de ton état et que tu entreprennes les changements qui se doivent ou que tu acceptes les changements et les métamorphoses qui se doivent dans ta vie. On a l'expression de jouer à l'autruche. Et on dit qu'une autruche, lorsqu'elle a peur, lorsqu'il y a quelque chose qui la dérange, lorsqu'il y a quelque chose qu'elle n'aime pas, elle plongerait la tête dans le sable et se cacherait la tête. Et ce faisant, elle penserait que les choses qui la dérangeaient autour d'elle en sont venues à quitter et à disparaître. En partant, c'est un mythe urbain. L'autruche ne fait pas ça. L'autruche ne s'enterre pas la tête dans le sol pour une raison toute simple. L'autruche respire aussi par sa tête. Je veux dire, les orifices qui lui servent de nez, qui lui servent à la respiration, que ce soit le bec ou que ce soit les trous qu'il y a dans le bec qui lui permettent de respirer, ben c'est dans la tête. Si elle met sa tête dans le sol, ben ça pourrait durer quelques instants, mais pas plus, parce qu'elle a besoin de respirer. Donc, c'est un mythe urbain. Toutefois, l'image qui est donnée est intéressante. C'est un peu comme la personne qui a peur d'une chose et elle ferme les yeux en pensant que ne voyant pas la chose, ça sera moins effrayant. Elle sait que la chose est là, elle sait que la source de peur est là, elle ferme les yeux, mais ça n'éloigne pas pour autant la chose qui l'effraie. Lorsque nous fermons les yeux sur notre péché, lorsque nous fermons nos yeux sur notre iniquité, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on se fait, en bon québécois, des accroire. C'est un terme qui n'existe pas, mais ou qui existe dans le vieux français. On se fait des fabulations quant au fait que notre état n'est pas celui que la lumière nous décrit réellement. Un peu comme la personne qui, parce qu'elle ne sait pas regarder dans le miroir, pense qu'elle est bien coiffée. Ou la personne qui a mangé avec beaucoup d'entrain, bien du chocolat, qui est tout taché à la figure parce qu'elle ne se regarde pas dans le miroir, elle pense que son visage est propre. Il en est de même pour nous qui ne plongeons pas nos regards dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que lorsqu'on plonge nos regards dans la parole de Dieu, cette parole nous éclaire et on vient à connaître notre état réel. Et c'est pour ça que Dieu envoie la lumière, pas pour te faire honte, mais pour t'amener à connaître ton état réel afin d'être transformé ou afin d'accepter le processus de transformation dans lequel le Seigneur veut t'introduire. Donc oui, afin d'être éclairé, afin d'être illuminé et afin d'être sous le faisceau de la lumière de Dieu. On a été, Israël dans ce cas-ci, a été pendant un certain temps sous la réprobation de Dieu à cause de son iniquité et de son péché. Et cette restauration devra se faire dans la lumière de Dieu, dans la sincérité de ce que nous devons être, dans l'honnêteté de l'état chrétien qui doit être le nôtre, dans la vérité d'un engagement à vivre selon les préceptes bibliques. La deuxième connotation du terme « or », être éclairé, c'est le sens d'être enflammé. À notre époque, on a des lumières qui n'ont plus besoin d'être incandescentes. Donc, ils n'ont plus besoin d'avoir quelque chose qui brûle. Vous vous rappelez les lumières, et vous en avez tous encore certainement à la maison. On ne peut plus en produire au Canada, en tout cas. Et je crois qu'on ne peut plus en acheter non plus dans les grandes surfaces. Mais on avait jusqu'à présent des ampoules incandescente, avec un filament. Donc l'électricité était allumée, on allumait l'électricité, et ce qui se passait, c'est que le filament qui était dans l'ampoule venait à chauffer et venait à brûler, dans le sens du terme. Quand il était trop brûlé, ben là, l'ampoule n'éclairait plus. Mais pendant un certain temps, sous une certaine force, ce filament était chauffé, était allumé, et qui permettait donc d'éclairer la pièce. À l'époque où le texte que nous lisons aujourd'hui a été écrit, pour s'éclairer, il fallait à tout prix qu'il y ait une étincelle qui vienne allumer, qui vienne enflammer une mèche avec de l'huile ou avec de l'alcool. Donc dans tout processus d'éclairage, ça prenait quelque chose qui s'enflammait. Et c'est ça que Dieu veut faire aussi avec nous. Il veut que nous soyons enflammés par la présence de l'Esprit Saint, par la présence de Dieu en nous. Il veut qu'on soit enflammés. Et c'est une bonne question pour toi et pour moi. Ta vie chrétienne, peux-tu la comparer à un braseau qui s'est enflammé, à un bout de bois qui s'est enflammé pour Dieu? Peux-tu effectivement dire que ta relation avec le Seigneur est incandescente? Elle a été enflammée par l'Esprit de Dieu. Ou la conclusion et la définition que tu aurais pour ta vie chrétienne, pour ta relation avec Dieu, c'est quelque chose qui ne brûle pas trop. Et effectivement, on peut être dans les deux cas. On peut être enflammé et brûlé avec vigueur, mais la Bible nous enseigne aussi qu'on pourrait être tout simplement un luminon qui est encore rouge, une cendre qui est encore rouge, mais qui est en train de s'éteindre. Ici, lorsque le Seigneur dit à Israël, voici, je te restaure, la restauration de Dieu est non seulement pour que l'ensemble de la vie d'Israël soit maintenant sous la lumière de Dieu et qu'il n'y ait plus de zone obscure, mais de surcroît à cela, pour que de nouveau dans la vie d'Israël, le peuple vive enflammé pour Jésus. Alors, je te pose la question, mais je me lance la question à moi-même aussi. Je crois qu'il faut être confronté par cette question. Puis-je dire que ma vie est enflammée pour Jésus? Ou suis-je tout simplement un chrétien du dimanche matin, un chrétien des bénédictions matinales, un chrétien des rassemblements entre chrétiens, mais lorsque je ne suis pas dans un de ces rassemblements, on ne voit pas de différence entre moi et entre quelqu'un qui ne connaît pas Jésus? Est-ce que la notion de Dieu dans ma vie enflamme, illumine ma vie? Est-ce que juste à la pensée que je suis le temple du Saint-Esprit, est-ce que ça enflamme mon cœur? Une pensée qui me vient à l'esprit maintenant, c'est dans le temple, il y avait plusieurs parties. Il y avait une partie qui était un parvis où tous pouvaient aller et tous pouvaient fréquenter. Il y avait une partie qu'on appelait le lieu saint et les sacrificateurs pouvaient aller et venir dans cette partie du lieu saint. Il y avait une chandelle qui était notamment dans cette partie-là, avec un autel de parfum. Donc on répandait des parfums, c'était de l'encens, comme on peut avoir chez nous aussi pour changer l'odeur ambiante. Ça pouvait être une lampe, comme je vous ai montré l'autre jour, qu'on allume et qu'on laisse brûler sans la flamme, mais qui continue à chauffer et qui permet de dégager un parfum de bonne odeur. Puis, il y avait le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est un endroit où le souverain sacrificateur, le chef des sacrificateurs, ne pouvait rentrer qu'une seule fois par année. Et lors de ce rendez-vous annuel, la gloire de Dieu descendait et le feu de Dieu descendait sur l'autel qui était caché dans cet endroit-là. Trois sections, trois types en même temps de communion avec Dieu. Le parvis, où il n'y a pas grand-chose qui brûle.
On est tous là, mais ça ne brûle pas énormément. Le lieu saint, où on a une lampe qui est allumée et on a un parfum incandescent qui est allumé. Puis, le lieu très saint, où la gloire de Dieu descend. Et concernant le lieu très saint, lorsqu'on regarde cette notion du lieu très saint qu'on avait dans le tabernacle et dans le temple, la Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 10, si je ne m'abuse, le verset 19, ça serait à confirmer, on nous dit que Jésus a ouvert pour nous une nouvelle voie à travers le voile qui nous donne accès à Dieu. Ça veut donc dire que le lieu très saint n'est plus réservé au souverain sacrificateur une fois par année, mais que nous pouvons avoir un libre accès à la présence de Dieu par ce voile, le corps de Christ qui a été déchiré à la croix et qui nous donne accès à la toute-puissance et à la toute-présence de Dieu. Alors, dans ma vie, quel type de chrétien j'illustre? Est-ce que je suis le type de chrétien qui est dans le parvis, mais où rien ne brûle? Est-ce que je suis le type de chrétien où, ouais, il y a une petite bougie qui est allumée et il y a un parfum qui se dégage un peu? Ou est-ce que je suis le type de chrétien qui entretient la présence de Dieu à son paroxysme et où Dieu peut brûler de façon intense, non pas une fois par année, non pas occasionnellement dans l'année, mais où j'ai un libre accès et je profite de ce libre accès pour me présenter quotidiennement dans la toute-puissance et dans la toute-présence de Dieu. Trois types de chrétiens, trois types d'incandescence, trois types de clarté ou de lumière. Suis-je, es-tu, sommes-nous enflammés pour Jésus? Et enfin, lorsqu'on parle toujours du terme « or », être éclairé, ça veut dire aussi être une source de lumière. Donc, non seulement Dieu disait à Israël « voici, je vais t'éclairer », mais Israël, tu vas devenir toi-même tellement incandescente par la présence de mon esprit sur toi, par la présence de ma présence, c'est redondant, mais je le dis malgré tout, auprès de toi, afin que toi qui es éclairé par moi, tu puisses aussi éclairer dans la nation, éclairer dans le monde. En fait, nous sommes des lampes que Dieu utilise un peu partout à travers Montréal, un peu partout à travers le Québec, si on est au Québec, mais puisqu'on a notre sœur Rosie notamment qui nous écoute de France, je crois qu'on a un bien-aimé qui nous écoute aussi de l'île Maurice, si je ne m'abuse. Peu importe où nous sommes aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes supposés être un flambeau pour Christ là où il nous place. Puisque la lumière de Dieu est venue en nous, puisque la lumière de Dieu nous éclaire, lorsque nous bougeons, lorsque nous allons quelque part, lorsque nous nous déplaçons, lorsque Dieu nous place quelque part, cet endroit doit être éclairé par nous, par notre présence. La lumière de Christ doit nous suivre et éclairer là où nous nous trouvons. Alors, je te pose une autre question importante. Es-tu une source de lumière pour les gens qui t'entourent? Es-tu une source de lumière pour les lieux ténébreux, opaques, où le Seigneur te permet d'aller? Que ce soit une clinique, que ce soit un hôpital, que ce soit le travail, que ce soit un bureau gouvernemental. Là, il paraît actuellement qu'au Canada, il y a énormément de retard pour obtenir un passeport, que certaines personnes vont faire des nuits blanches à attendre devant la porte du bureau des passeports pour obtenir un peu de service. S'il y a un chrétien qui est en train de faire la ligne devant le bureau des passeports, ce chrétien doit être une lumière dans cette ligne où il est à faire la ligne devant le bureau des passeports. Si tu vas à l'épicerie et que tu fais la ligne pour atteindre la caisse, dans cet endroit, tu devrais être une lumière. Là où le Seigneur te permet d'aller, là où le Seigneur organise ton séjour, que ce soit de quelques secondes, de quelques minutes, de quelques heures, de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, peu importe, tu dois être une lumière là où Dieu te place. Alors, trois notions importantes. Être éclairé et illuminé par Dieu. Donc, savoir que nous sommes sous le regard de Dieu et que toutes les sections de notre vie vont être amenées à la lumière. Être éclairé par Dieu afin de savoir comment placer nos pieds, comment nous déplacer, comment nous comporter, comment agir. Être éclairé par Dieu afin d'être enflammé pour Jésus. Et enfin, être éclairé par Dieu pour être nous aussi propagateurs de la lumière de Jésus. Est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que c'est ce que je fais de ma vie? Est-ce que je peux dire que Christ est en train d'éclairer des sections obscures de mon existence? Est-ce que j'accepte qu'il éclaire ces parties de ma vie? Est-ce que j'accepte qu'il enflamme ma vie? Est-ce qu'en fait je veux être enflammé pour Jésus? Ou je veux mener une vie chrétienne toute tranquille? Et vous savez combien je déteste cette expression de vie chrétienne. En tant que chrétien, on ne vit pas une vie chrétienne. En tant que chrétien, je mène une vie et cette vie se doit d'être en accord avec les principes chrétiens, avec les principes de la parole de Dieu. Alors la vie que je mène, est-ce qu'elle est enflammée pour Jésus? Est-ce que ce qui me fait, encore une expression familière que vous pardonnerez, est-ce que je bosse pour Jésus? Est-ce que je m'excite pour Jésus? Est-ce que je m'enflamme pour Jésus? Et enfin, est-ce que je suis une source de lumière? Il nous dit ici, sois éclairé car ta lumière arrive. On reprend ce même terme, or, et on le prend maintenant dans le fait que cette lumière arrive. Celui qui illumine arrive. Celui qui va mettre la lumière sur notre existence arrive. Alors, est-ce que j'ai réglé ce qui devait être réglé? Les choses qui ont fait qu'Israël avait été sous le châtiment de Dieu, qu'Israël avait été sous la réprobation de Dieu. La lumière de Dieu arrive. Est-ce que Dieu va voir encore la même situation? Est-ce que je vais présenter à Dieu le statu quo depuis le jour où le châtiment a commencé sur moi? Ou est-ce que je suis dans cette amélioration, dans cette progression, dans cette transformation auquel Dieu m'invite. Deuxièmement, quand on dit que la lumière arrive, donc celui qui enflamme arrive, est-ce que je suis un bon hôte pour Jésus? La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, quand on dit qu'on est le temple, quand on dit qu'on est la demeure de quelqu'un, lorsqu'on prête notre maison, il y a des gens qui louent leur maison avec certains services en ligne, mettre leur maison en location pour 24 heures, pour 48 heures, pour quelques jours. Mais avant que le client arrive, avant que celui qui va habiter la maison pendant le temps où vous la louez arrive, vous faites le ménage avant. Vous préparez la maison, vous disposez la maison. Alors, lorsque je sais que je viens à la rencontre de Jésus, que Jésus vient à ma rencontre, est-ce que je dispose, est-ce que je prépare? Est-ce que je nettoie ma vie? Est-ce que je sanctifie ma vie pour être la demeure? Parce que Jésus va regarder. Jésus va sonder. Alors, qu'est-ce que je lui présente comme demeure? Mais de surcroît à cela, celui qui enflamme. Alors, est-ce que ce temple-là dans lequel il doit y avoir le lieu très saint? Est-ce que je vais simplement dire à Jésus, ah ben on va se limiter à avoir une relation type parvis du temple. Donc, brûle pas, regarde pas trop, n'éclaire pas trop. Ou est-ce que je vais avoir une relation avec Dieu du type lieu saint? Donc, ouais, un petit peu de parfum, une petite bougie qui éclaire un peu, mais pas trop. Ou est-ce que je vais dire, Seigneur, non, moi, le type de relation que je veux avec toi, c'est le type de relation lieu très saint, là où ta gloire éclate, là où ta lumière jaillit, là où toute ta puissance se manifeste. Il va y avoir des exigences pour chacune de ces de ce type de relation. On ne fait pas la même chose dans le parvis qu'on fait dans le lieu saint ou qu'on fait dans le lieu très saint. Quelle est l'invitation que tu lances à Jésus. Et de surcroît à cela, puisque lui a ouvert la voie qui te permet de rentrer dans le lieu très saint, quel est l'investissement que toi tu vas faire? Tu diras, j'avance jusqu'au parvis, je suis satisfait. Ou, ah non, je vais rentrer dans le lieu saint, mais je vais me contenter de la petite odeur de parfum chrétien et de la petite bougie de qui éclaire un peu ma chrétienté. Ou je vais dire, non, je vais me plonger dans la présence de Dieu et qu'il éclaire tout ce qu'il a éclairé. Et il finit en disant, sois éclairé car ta lumière arrive. Arriver, c'est le terme bo, B-O, arriver, qui veut dire quatre choses essentiellement. Un, atteindre et toucher. Ça veut dire que le Seigneur fait l'effort de venir vers Israël. Il dit, voilà, ta lumière arrive, je vais venir, je vais t'atteindre et je vais te toucher. Et Dieu te fait la même promesse. Je suis en chemin, j'arrive, je vais atteindre. Je vais te toucher. Un peu le verset qu'on rappelle très souvent, c'est la bénédiction. Tarde, attends-la, car elle est en chemin, car elle va arriver. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Donc, si la bénédiction tarde, attends-la. Elle est en train de cheminer vers toi. Elle va t'atteindre. Elle va te toucher. Beau arriver veut dire aussi entrer, pénétrer. Donc, non seulement Dieu veut te toucher, mais quand on touche l'extérieur. Mais Dieu dit, non, je vais aller plus loin. Je veux entrer. Je veux pénétrer en toi. Je vais aller au plus profond de ton existence. Ce faisant, Dieu va éclairer des sections cachées de ton existence. Dieu va éclairer des sections obscures de ta vie, des choses que les gens ne voient pas, que les gens n'ont jamais remarquées, mais que Dieu connaît. Dans ta vie qui doivent être consumées, qui doivent être brûlées, qui doivent être éclairées, qui doivent être changées, qui doivent être transformées. Alors Dieu dit non seulement je vais venir, je vais te toucher, mais ce que je veux encore plus, c'est entrer dans ta vie. Mais beau va plus loin. Beau va aussi vouloir dire guider, conduire, diriger. Ça veut dire que non seulement le Seigneur va éclairer, va venir vers toi, il va éclairer ta vie, mais il va aussi vouloir avoir cette relation qui va au-delà de tout simplement une relation de superficie, donc de toucher, va au-delà de tout simplement remplir ton cœur. Le Seigneur veut pousser plus loin pour que la lumière qu'il amène puisse te guider, puisse te conduire et te diriger. Toujours ce verset dans le psaume 119, le verset 5, que la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier, qu'elle éclaire nos pas. Donc le Seigneur veut diriger ta vie. Lui permettras-tu? Et enfin, le terme beau veut dire attirer. Quand on dit que la lumière arrive, beau veut dire atteindre. Donc elle va t'atteindre, elle va te toucher, elle va entrer, elle va pénétrer. En deuxième étape, elle va en troisième étape te guider, te conduire, te diriger. Mais en cinquième étape, ou en quatrième étape plutôt, elle va attirer les gens de l'extérieur. En fait, c'est la lumière de Christ qui se répand à travers toi qui va attirer les gens. Alors, je te pose la question, et je m'arrête là ce matin. Jésus brille-t-il à travers toi à un tel point qu'il attire vers lui ceux qui t'entourent? Dieu te place dans certains endroits spécifiques pour que tu répandes sa lumière, que tu répandes son parfum, que tu répandes sa présence afin d'attirer à lui les gens qui sont autour de toi. Fais-tu ce travail? Faisons-nous ce travail? Est-ce que je comprends que Dieu m'utilise, peu importe les circonstances, peu importe les endroits, peu importe les situations où il nous place, afin d'attirer à lui les gens que nous rencontrons? Deux termes importants, or, lumière, être éclairé et beau, arriver. Et c'est là la richesse de la parole de Dieu. Lorsqu'on la sonde un peu plus, elle nous met au défi d'être vraiment ses serviteurs qu'il désire que nous soyons. Alors, je prie ce matin, Seigneur, que tu puisses effectivement éclairer la vie de ma sœur, la vie de mon frère, afin de rester sous ton regard et sous ta lumière, que toute partie obscure de notre vie soit maintenant atteinte par la lumière de ta parole, par la lumière de ta présence, par la lumière de ta personne, afin, Seigneur, qu'il n'y ait plus aucune partie obscure dans notre vie, que nous soyons pleinement éclairés, mais de surcroît à cela, qu'on soit enflammés pour Jésus. Pas tout simplement une brindille qui est encore incandescente, qui est encore rouge, mais qui n'a pas de flamme qui s'en dégage. On veut être, Seigneur, un braseau qui est fortement enflammé et qui répand autour de lui ce feu de l'Esprit Saint. On veut être une source de lumière, on veut être une source d'embrasement pour les gens qui nous entourent. Oui, Seigneur, on veut que tu nous atteignes, on veut que tu nous touches. Mais Seigneur, on veut aussi que tu entres dans notre vie, que la demeure que nous te présentons, que la demeure que nous t'offrons soit quelque part où tu désires effectivement habiter et demeurer. On veut, Seigneur, que tu sois tellement à ton aise dans notre vie que tu puisses effectivement venir à nous guider, à nous conduire et à nous diriger. Ça veut dire, Seigneur, que nous qui étions propriétaires de notre vie, on vient à céder le pas devant toi, à céder les rênes devant toi, à céder les clés du propriétaire entre tes mains pour que maintenant tu occupes tout l'espace de notre vie, que tu occupes toute notre vie et que tu la conduises. Mais de surcroît à cela, on veut, Seigneur, que ta lumière puisse tellement être forte et resplendissante en nous qu'elle attire d'autres personnes à toi. Et c'est ainsi, Seigneur, qu'on accomplira le plan, la volonté que tu avais, les desseins que tu avais pour nous à travers notre vie. Attirer à toi des hommes, des femmes qui ont besoin de te connaître. Alors je prie, Seigneur, que cette parole reçoive une bonne écoute, une bonne disposition. Je prie, Seigneur, que cette parole puisse être transformatrice dans la vie de ma sœur et de mon frère, et que dès aujourd'hui, dès les prochaines minutes, on puisse déjà être utilisé à répandre la lumière de Dieu autour de nous. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, on vous rappelle qu'on a un rendez-vous ce soir, l'étude biblique. On espère tellement vous voir le mercredi soir. On est peu nombreux à être sur place pour recevoir l'enseignement le mercredi soir. On sait que vous nous écoutez à travers les plateformes Internet qu'on utilise, mais croyez-moi, ça ne vaut pas une visite à l'église et un temps de communion avec vos frères et vos sœurs. C'est bien l'Internet, mais c'est un moyen palliatif, c'est un moyen qui vient aider, mais c'est pas la bonne façon, c'est pas la vraie façon d'avoir communion avec vos frères et vos sœurs. Donc on espère vous voir nombreux ce soir, c'est à 19h pour nous. On se retrouve demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale. Alors que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous et soyez éclairés et éclairez-vous aussi autour de vous. Bonne journée à tous.